6, verset 35. Et Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Au verset 53. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. La condition, l'état de l'Église, d'une assemblée locale qui, répétons-le, a pour mission de représenter l'Église, elle a cette mission et pas d'autre. L'état d'une assemblée locale dépend évidemment de l'état de chacun de ceux qui la composent. Nous évitons à dessein d'employer l'expression « membre d'une assemblée locale » car ce n'est pas scripturaire. Membre de l'Église, du corps de Christ, mais pas de l'assemblée locale. Le Seigneur est venu pour rassembler en un des enfants de Dieu dispersés. Nous pouvons en effet mener deuil sur le fait que la famille divine est tristement dispersée. Et nous devons. Nous n'avons aucune peine à le faire si nous sommes exercés, nous humilier en reconnaissant que chacun de nous a sa part dans le désordre qui caractérise l'Église entière. Et nous pouvons bien aussi, n'est-ce pas, cela a tout à fait sa place, en pensant à l'état du témoignage des derniers jours, auquel témoignage auquel la grâce nous a été faite de faire partie. La parole n'a pas changé, le Saint-Esprit non plus, la chair de l'homme non plus, hélas. Et si l'unité dont on a parlé est un sujet qui exerce, quiconque a à cœur, non pas les intérêts des frères, mais les intérêts du Seigneur, si ce sujet d'unité de l'Église est la tête devant nous, nous sentons combien ce sujet-là touche à des questions d'ordre pratique sur lesquelles nous pouvons individuellement nous arrêter. Le Seigneur a dit que celui qui mange le pain qu'il donne et qui boit l'eau qu'il donne n'aura jamais une fin d'histoire. Peut-être est-ce là que nous commençons à faiblir. C'est-à-dire que, au lieu de chercher chacun pour soi à trouver sa satisfaction dans la communion avec le Seigneur, nous nous tournons à droite et à gauche, nos cœurs se portent sur multiples objets, de sorte que nous ne réalisons pas ce contentement qui serait celui d'une âme qui mangerait le pain que Christ donne et qui boirait l'eau qu'il donne. Sûrement, une des causes de nos faiblesses, il ne s'agit pas de voiler, ni non plus sans doute de trop découvrir, il ne s'agit pas de nous nourrir de cela, mais il n'est pas plus sage de fermer les yeux sur les réalités. Une des causes, c'est que nous ne trouvons pas assez notre bonheur en Christ, notre bonheur dans le Père. Nous ne sommes pas des chrétiens assez heureux. Et quand un chrétien n'est pas heureux, il n'est pas dans bon état, il est susceptible de facilement de se laisser emporter par des influences internes ou externes. Quand un chrétien est heureux, il est à l'abri de cela. Il n'y a pas cet état morbide d'une âme qui n'est pas satisfaite. Et considérons un peu, nous qui sommes des chrétiens, combien d'heures dans nos journées nous avons cette joie, cette paix dont on nous a parlé, et qui ne sont pas du tout le fruit d'un caractère plus ou moins un caractère meilleur, bien que un caractère méchant exige plus de contrôle de la part de celui qui peut avoir un tel caractère. Mais combien d'heures dans nos journées, dans combien d'heures de nos journées nous buvons à la source qui seule nous satisfait. Voilà la piété quotidienne. Autrement dit, quelle place Christ tient-il non pas dans nos pensées, dans nos facultés intellectuelles, non, ni même dans nos activités extérieures, car on pourrait très bien avoir des activités extérieures au nom du Seigneur avec un cœur très sec à son égard. Nous pouvons tous reconnaître qu'il en est ainsi. Nous avons connu cela. Seigneur nous offre le bonheur, le contentement. Paul dit, la piété avec le contentement est un grand âme. Est-ce que vous trouvez beaucoup de chrétiens réalisant ce contentement, de frères même? Contentement d'avoir Christ dans son cœur. C'est la chose essentielle. Nous avons sûrement beaucoup de connaissances dans l'ensemble, vu que beaucoup de chrétiens d'ailleurs, il n'est pas sûr que nous soyons aussi heureux que certains d'entre eux, beaucoup moins riches en connaissances générales, mais peut-être, par la grâce de Dieu, beaucoup plus portés à chercher le Seigneur comme objet de leurs affections, donc de leur vie. Est-ce qu'il est l'objet de nos vies, Seigneur? Est-ce qu'il est? Il faut sans doute travailler, faire une carrière, fonder un foyer, tout cela va très bien, mais on peut faire tout cela en ayant le Seigneur dans son cœur. Et on peut faire tout cela en ne l'ayant pas dans son cœur. Il est évident que même si, dans le second cas, on réussit mieux que dans le premier, cela ne veut pas dire que si l'on compte bien, on ait fait une bonne affaire. Chers amis chrétiens, chers frères et sœurs, la question pour nous, elle est celle-là. Elle n'est pas d'abord, il ne s'agit pas pour nous de savoir ce que nous allons faire, il s'agit d'abord de savoir ce que nous sommes, dans quel état nous sommes, dans quelle condition est notre âme. Et il est évident que ce n'est pas un homme qui est malade, très malade, ne peut pas aller s'en soigner un autre. Et un chrétien qui n'est pas satisfait ne peut pas aller s'occuper des âmes. Il a d'abord à retrouver le Christ qu'il a perdu. Car on l'a perdu pour un temps. On est un chrétien, mais on est un chrétien mal à l'aise. Et qui n'est à l'aise nulle part. Qu'il nous soit donc donné de manger le pain et de boire à la source que le Seigneur nous offre. C'est, on n'a pas besoin d'être un docteur dans les vérités chrétiennes pour cela. Non, celui qui mange, c'est qu'il a faim. Celui qui boit, c'est qu'il a soif. Et nous le répétons, nous connaissons Dieu seulement par nos besoins. J'avais soif dans mon âme, n'est-ce pas ? Chacun nous peut dire. J'avais soif dans mon âme, c'était la sécheresse dans mon âme, pour des raisons qui peuvent être très diverses. Voilà que le Saint-Esprit m'a fait goûter la communion avec le Père, la soif a disparu. Je sais ce que c'est que l'eau que Dieu donne. De même que l'eau naturelle, celui qui la connaît le mieux, ce n'est pas le savant qui l'a analysé, c'est l'homme qui mourait de soif et qui a repris vie grâce au verre d'eau qu'il a bu. C'est ainsi que nous connaissons Dieu, par nos besoins, pas par nos efforts, ni nos capacités. C'est toujours ainsi. Dieu donne, je reçois. Et c'est toujours Dieu qui donne, et nous qui recevons. Il ne sera le débiteur de personne. Nous serons toujours ses débiteurs. C'est la bonne chose. Il ne donne pas sa gloire à personne. Il ne peut pas, ils ne désirons pas se frustrer de la gloire, de sa gloire, aucunement. Voilà un premier point. Et nous avons eu plusieurs réunions, et Dieu veuille qu'elles aient eu comme effet pour chacun de nous inciter à nous occuper des Écritures, chacun. Et pour cela, il faut beaucoup prier en même temps. Afin que le Saint-Esprit nous nourrisse l'Écriture. C'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail, tout. Vous avez à prier pour vos enfants s'ils sont convertis, pour que le Saint-Esprit les conduise dans la parole, les nourrisse de la parole. Ce n'est pas vous qui pouvez, même en leur remplissant l'esprit de vérité, bien que Dieu puisse s'en servir, vous ne pouvez pas les mettre en communion avec le Seigneur. Et puis dans le chapitre 6, un peu plus loin, nous voyons qu'il est parlé de manger la chair et de boire le sang de Christ. Nous sommes souvent demandé comment les étudiants du Saint-Livre avaient pu expliquer, étudiants de façon très générale, avaient pu expliquer de tels versets. On n'en entend pas souvent parler. On n'a pas l'occasion de lire grand-chose sur ces versets-là, en général. Ce sont ces versets sur lesquels il est impossible de donner des explications utiles. Mais pourtant c'est là. Manger sa chair, boire son sang. Et cela est fait d'indiquer de deux manières. Et c'est dit, à qui cela est-il dit ? Aux chrétiens. À quelqu'un qui est converti ce matin, depuis ce matin, eh bien, c'est pour lui. Et à quelqu'un qui n'est pas converti, la première partie est pour lui. Si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il a la vie éternelle. Un peu plus bas, s'il mange ma chair et boit mon sang, il demeure en moi et moi en lui. Deux faits différents. Dans le premier cas, manger la chair et boire le sang de Christ pour avoir la vie éternelle, c'est la conversion. C'est la conversion authentique. La chair et le sang indiquent là qu'on a, on entre dans le terre, sur le domaine de la foi, en part de la vie éternelle par la foi en un Christ qui est mort. C'était tout nouveau pour les Juifs. Les Juifs ne s'agissaient pas de cela. Ils avaient un Messie qui était venu vivant et qui s'est présenté vivant. Tandis que dans l'Église, pour les croyants, pour les chrétiens, nous entrons dans la famille chrétienne en croyant en un Christ qui est mort. Et nous nous identifions avec ce Christ qui est mort. Nous manger, c'est l'identification avec. Quelqu'un qui a la foi véritable, le Saint-Esprit produit dans l'âme, touchant la conscience, touchant le cœur, encore une fois, aucune éducation faite par les meilleurs frères du monde, à l'égard des âmes, les plus d'élite même, donc, aucune éducation ne fera le travail. Il nous faut être très net de nos jours à cet égard. Parce que nous, là, on laisse, il y a une certaine équivoque qui laisserait croire qu'une éducation chrétienne très poussée, très attentive et très sérieuse peut arriver à produire ce changement dans l'âme qui fait qu'un homme passe de la mort à la vie. Qu'un homme mange la chair et boit le sang de Christ et il a la vie éternelle. Il faut l'opération du Saint-Esprit. Je rappelle ici une image que nous avons rappelée ailleurs, une image à l'égard de l'utilité d'enseigner la vérité à de jeunes âmes ou à d'autres. Ce n'est pas un travail inutile, mais tant qu'on s'en tient là, tant que l'âme ne va pas plus loin, ne reçoit pas l'avantage, il n'y a exactement rien de fait. La formation des jeunes dans des églises depuis bien des siècles, cela n'a pas toujours été utile sans doute, mais lorsqu'il n'y a pas une opération divine qui intervient, eh bien les âmes n'ont rien, elles s'en vont sans rien. On a comparé cela alors à un foyer, à un feu que l'on dresse. On met tous les matériaux pour le feu, du bois, tout ce qu'il faut. Mais tant qu'on a là, si on s'en tient là, il n'y a rien. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien. Et si on allume, n'est-ce pas, alors voilà que tous les matériaux que l'on a apportés brûlent. De même, si le Saint-Esprit vient, n'est-ce pas, intervient dans l'âme, dans l'âme qui a été instruite dans les vérités divines, il donne à toutes ces vérités une puissance vivante. Il les rend vivantes pour celui pour lesquels jusque-là elles étaient des vérités acceptées mais mortes, sans effet sur lui. L'immense différence entre la mort et la vie. N'oublions pas cela. Prions et que les parents prient pour la conversion de leurs enfants. Conversion que seul le Saint-Esprit peut faire. Et il pourrait faire cela quand même, il a fait cela quelquefois dans les familles ou au lieu, de favoriser au maximum l'accès auprès des âmes des vérités divines. On s'opposait, on enfermait les âmes pour qu'elles ne soient pas sous l'influence de la parole de Dieu. Il y a eu dans l'histoire nombre de cas de ce genre. Les parents eux-mêmes, considérant les Écritures comme étant contre ce qu'on leur enseignait, ce qu'elles croyaient, n'étant pas de Dieu, ils n'étant pas une bonne chose, préservaient leurs enfants de l'influence de cette parole. Quand Dieu l'a voulu, il a passé par-dessus toutes les protections et il a atteint les âmes qu'il a voulu atteindre. Ne mettons pas en souci. Quand le Seigneur veut atteindre une âme, l'univers serait contre elle, et il l'atteindra. Et il l'amènera à lui. Prions pour qu'il le fasse. Il y a des exemples dans cet évangile. Relisons la Samaritaine. Elle avait quelque chose pour elle, cette femme, pour être amenée au Seigneur. Tout contre elle. Elle avait tout contre elle. La plus mal placée, suivant le coup, eh bien, c'est elle qui a été amenée. Et puis d'autres, beaucoup d'autres. Nous citons très souvent, et c'est un exemple évidemment saisissant, celui du brigand sur la croix. Qui avait-il pour lui, cet homme-là? Personne. Il n'y avait personne. Il n'a pas eu des conditions favorables dans sa vie. Mais quand le Seigneur a voulu le toucher, il a été le seul témoin dans ces heures-là, le seul, contre tout le monde, au-dessus de tout le monde. Qui lui avait dit que le Seigneur était le Seigneur? Qui lui a dit? Je ne dis pas cela pour minimiser l'importance de l'instruction à donner aux âmes, pas du tout. Mais que nous le fassions, quand nous avons l'occasion de le faire, ou à des adultes, ou que ce soit, que nous le fassions toujours, en nous souvenant, devant Dieu, que c'est lui qui opère, et lui seul. Aucune pression exercée ne peut faire ce que lui peut faire. Même, et alors là, ce que nous pouvons faire, alors sans limite, c'est beaucoup prier. Beaucoup prier. Mais laissons au Saint-Esprit sa gloire et sa place. Personne ne le remplace. De la même manière pour l'édification des saints, pour les progrès d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Le reste, les vérités elles-mêmes que nous disons cet après-midi, les vérités ne sont pas Dieu et ne le remplacent jamais. Elles conduisent à la pensée de Dieu et à Dieu lui-même indirectement, mais c'est Dieu qu'il faut pour être sauvé et c'est Dieu qu'il faut pour être un chrétien attaché au Seigneur. Et c'est ce que nous trouvons dans notre deuxième partie. Si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, ce n'est pas dans le texte original, les deux expressions ne sont pas tout à fait les mêmes. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dans le premier passage, a la vie éternelle, et je le ressusciterai. L'autre passage, celui qui mange ma chair et boit mon sang, ne demeure en moi et moi en lui, c'est une action continue. Le mangeur de ma chair et le buveur de mon sang. Celui-là demeure en moi et moi en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui, le chrétien, qui mange la chair de Christ et boit son sang, qui cultive la communion avec un Christ qui a été mort et qui est vivant, ce chrétien-là vit dans la communion avec le Seigneur. C'est le secret de la communion. S'occuper du Christ, c'est la condition de la communion de chacun de nous. Et si nous réalisions cela davantage, il est bien évident que des quantités de difficultés qui surgissent, même chez les frères et dans les rassemblements, ne verraient pas le jour. C'est bien évident. La condition de tout, c'est l'état intérieur de chacun. La place que Christ tient dans les affections, dans les motifs qui font agir, dans les objets que l'on porte, dans l'objet que l'on poursuit. Voilà, c'est cela. Et quand nous devenons mondains, et quand les valeurs mondaines commencent à avoir du prix pour le cœur des saints, quand elles comptent dans leurs appréciations les éléments du monde, Colossiens 3, qui visent plutôt la philosophie, mais que l'on peut élargir à tous les éléments du monde, c'est tout ce qui est du monde, alors il est bien évident qu'on ne mange plus la chair de Christ et on ne boit plus son sang pour cultiver la communion. On mange d'autres choses, d'autres nourritures, des nourritures mondaines. Le résultat, c'est la chair qui est nourrie de cela, et le vieil homme, il reste, le nouvel homme, la vie divine n'est pas développée, elle est étouffée, et le chrétien n'est pas heureux. Et alors, à la moindre des difficultés, le chrétien est vaincu, la chair le surmonte. Quand la chair surmonte un chrétien, eh bien, le chrétien est vaincu. C'est une défaite. De même, alors, dans une collectivité chrétienne, une assemblée chrétienne, s'il n'y a pas en tout cas un certain nombre de frères et de sœurs qui soient exercés à cultiver la communion avec le Seigneur, avec le Père, avec le Père et avec le Fils, il est bien évident que le danger est là pour que la chair se manifeste une fois ou l'autre, n'est-ce pas ? Marc dit dans un passage, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. » Ayez du sel en vous-même. Je termine en disant un mot de cette expression. Et la condition de la réalité de l'unité, dans le détail, car nous ne pouvons plus penser à l'unité de l'Église, elle tient, elle est là, les conditions sont là, sont en réalité dans ce que nous appelons très justement la piété. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Du sel en vous-même, le sel est lié à la consécration, au sacrifice de consécration. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je n'en dis qu'un mot, ça serait un sujet un peu assez vaste. Un seul mot. Le sel est un état d'âme. L'état d'âme produit par l'attachement à Christ. L'attachement à Christ. Si une âme est attachée à Christ, si elle aime le Seigneur, elle le suit. Elle est dans un état qui fait tel qui fait que ce qui l'environne, ce qui amorce la chair, n'est-ce pas, la laisse indifférente. Elle a un objet devant elle et c'est ce qui produit la sainteté. La sainteté n'est pas autre chose que cela. La séparation du mal, non pas extérieure d'abord, mais intérieure, intérieurement. L'état des affections est bon, les pensées sont saines. L'esprit ne se promène pas un peu partout dans le monde. Je parle d'un chrétien qui serait fidèle à lui. Et alors, cette consécration au Seigneur, car encore une fois, l'homme ne peut pas vivre sans objet. Impossible. Vous n'avez pas un homme au monde qui n'est un objet. L'un poursuit l'argent, l'autre les honneurs, l'autre les plaisirs. Un chrétien fidèle comme objet à Christ, la Dieu. La créature est dépendante, elle n'est pas indépendante. Seul Dieu est indépendant. Il n'a pas besoin d'objet. Mais nous, nous avons besoin d'objet. L'ambition aussi est un objet, tant de choses de ce genre. Eh bien, le chrétien qui a Christ comme objet, il n'est pas touché par les choses qui l'entourent. Son cœur reste attaché au Seigneur. Alors, il est en paix, et si, c'est le secret de la paix entre les chrétiens. Voilà pourquoi il est tellement insisté dans les épîtres. Pour cela, nous sommes exhortés à réaliser la paix, l'unité de l'esprit dans le bien de la paix, mais justement en veillant d'abord, en étant exercé individuellement, à être gardé non seulement des manifestations ordinaires de la chair, les vexations, irritations, paroles vives, c'est évidemment triste, et nous avons à surveiller cela, mais d'abord l'état, les objets que nos cœurs poursuivent, que nous poursuivons. Si des frères poursuivent leurs intérêts personnels, et cela on peut le chercher de bien des manières et dans bien des endroits, il est évident qu'il sera difficile de faire face aux difficultés que l'on peut rencontrer. Tandis que si nous étions tous fidèles, sans chercher rien d'extraordinaire, attachés au Seigneur, bien des troubles qui peuvent se produire, se manifester, n'auraient pas de suite. La chair est toujours la même, elle produit toujours les mêmes ravages. Christ est toujours le même, et il est la source des bénédictions et la salut. Et l'opération du Saint-Esprit par la parole en nous, car ce n'est pas par notre effort que nous recevons la parole de Dieu, c'est par l'opération du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos consciences. Tout est de Dieu. Tout est de Dieu dans le salut, et tout est de Dieu dans le salut pour la carrière chrétienne. Nous sommes heureux de savoir cela. Sinon, bien nous ne pourrions pas surmonter les difficultés. Que le Seigneur nous donne d'être attachés à sa parole, à lui-même. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Quelqu'un aime le Seigneur, qu'il garde ses commandements. S'il ne les garde pas, il ne l'aime pas.